cinéma du monde. Elisabeth Lequéret, Sébastien Gédor.
Tous les cinémas du monde avec un réalisateur libre insoumis cette semaine, Tony Gatliffe, dans son dernier film Géronimo. Deux communautés gitanes s'affrontent pour une histoire d'honneur. Une éducatrice, Céline Salette, va tenter d'éviter l'embrasement. Un hymne à la jeunesse et contre l'obscurantisme sur des musiques endiablées. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tony Gatliffe sera notre invité dans 20 minutes, mais avant cela, Wim Wenders à la rencontre d'un des plus grands photographes actuels, Sebastião Salgado, titre du film Le sel de la terre. On parlera aussi de Samba du duo Toledano-Nakache avec Omar Sy dans le rôle d'un sans-papier. Mais pour commencer, notre tour du monde, notre rituel, première étape, Elisabeth, le Kenya où vient de s'implanter un géant chinois de l'audiovisuel et du cinéma.
Oui, le géant Star Times Media qui a pour projet de construire à Nairobi un complexe qui va réunir une chaîne de télé, un centre de doublage pour le cinéma et la télévision. À terme, l'idée serait de créer un véritable centre de production. Affaire à suivre, donc.
Chistecito con todo el arte que yo tengo.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Y no me toques, españolazo, que te denuncio. ¡Odo la Euskadi, me cago en todo!
Le cinéma espagnol est en pleine forme. Voilà une nouvelle qui a de quoi étonner.
Et oui, après la crise financière terrible dont le pays subit encore les conséquences, voilà que, contre toute attente, le cinéma espagnol ne s'est jamais si bien porté. Part de marché depuis le début de l'année, 24%, c'est-à-dire un record énorme. Historique. Explication de ce succès, Sébastien, un film, Ocho Apellidos Vascos, de Emiliano Martinez Lázaro, dont on vient d'entendre un extrait qui a un énorme succès populaire en Espagne. D'autres titres comme El Niño de Daniel Monzon ont eux aussi boosté ces chiffres. Comment dit-on Cocorico en espagnol?
Alors je ne sais pas, mais en tout cas, Ocho Apellidos Vascos, ça veut dire huit noms basques. Et c'est ça, hein, l'histoire du film, c'est la rencontre électrique entre un jeune homme venu d'Andalousie et la famille de sa copine. Et ils vont aller au Pays Basque rencontrer donc la famille de cette jeune femme.
It's gone.
You both know what's at stake here.
Take the bloody shot.
Le cinéma américain a désormais un nouvel accessoire à sa disposition, les drones, Elisabeth.
Oui, les drones qui étaient déjà plus ou moins autorisés aux États-Unis et plutôt moins que plus. Il fallait tourner pour cela, pour les utiliser dans les immensités désertes de l'Alaska sous des conditions très strictes. Quelques films avaient pu en bénéficier, notamment Skyfall, dont on vient d'entendre la bande-annonce. Eh bien, désormais, 6 sociétés de production pourront poser des caméras sur des drones, même des drones survolant des zones habitées. Vous l'aurez compris, Sébastien, Hollywood ne sait plus quoi faire pour offrir au public des images sensationnelles. Et puis, cerise sur le gâteau, un drone, ça coûte bien moins cher qu'un hélicoptère.
On va terminer ce tour du monde avec 2 tournages. Alors, le premier va faire battre très fort le cœur des geeks, les accros aux nouvelles technologies.
Oui, puisque Tetris, le jeu vidéo cultissime, va faire l'objet d'un film. Ce sera un énorme succès de science-fiction, dixit son producteur Larry Kasanoff, qui a tout de suite tenu à rassurer les fans. Contrairement au jeu vidéo, Tetris, le film, ne sera pas composé de lignes qui défilent ni de figures géométriques.
Ce sera peut-être un petit peu plus passionnant. Le festival d'Abu Dhabi ouvre ses portes jeudi prochain.
On pourra y revoir les films de François Truffaut, entre autres Jules et Jim, L'enfant sauvage et même, aux surprises, L'homme qui aimait les femmes.
Une belle jambe, c'est très beau, mais... Je ne suis pas ennemi des chevilles épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent, car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux en remontant le long de la jambe. Les mystères de la poste. Insondable. Insondable.
À Abu Dhabi, les festivaliers pourront aussi découvrir Léviathan du russe Andrei Dziaginsev, 99 maisons de l'américain Ramin Barani et El Hot de l'égyptien Ibrahim El Batout.
On se retrouve maintenant à Dakar où le festival des trophées francophones du cinéma s'est terminé cette semaine. La capitale sénégalaise accueillait la manifestation pour la 2e année consécutive, 22 longs métrages et 5 courts métrages en compétition. Du Sénégal avec Mati Diop et Diana Gueye à la France en passant par l'Algérie, le Maroc, la Roumanie ou le Québec, l'occasion de vérifier toute la diversité de la francophonie à l'Institut français de Dakar. C'est un reportage de Coralie Pierret.
C'est devant une salle comble que se sont ouverts les trophées francophones du cinéma. À l'honneur, le film Des Étoiles de la Sénégalaise Diana Gueye, nominé dans 6 catégories.
T'as pas envie de sortir ton trou et de voir le monde ?
Y a pas que Moussa et Dakar dans la vie, hein.
Ça va, y a pas que l'Amérique non plus.
16 pays sont représentés, des films en français, mais pas seulement. On parle arabe, wolof, italien, lingala. L'objectif, donner un coup de projecteur sur le cinéma francophone.
On n'est pas les Oscars d'Hollywood.
Henry Welsh, président fondateur de l'association.
L'idée de cette cérémonie est venue de loin, parce que j'ai fondé une cérémonie qui s'appelle les Jutras au Québec et qui récompensait le cinéma québécois. Je me suis dit comment faire plus ou mieux. Donc je me suis dit on peut justement établir un espèce de dispositif qui permettrait de rendre hommage aux artisans et artistes du cinéma francophone du monde entier. La nationalité d'un film n'est pas nécessairement celle du réalisateur. Je prends cet exemple parce que sous le drapeau français se place le film Le Passé de Asghar Farhadi, qui est un Iranien. Et c'est là la beauté de la francophonie, c'est que à travers cet espace francophone, il y a des expériences, des cultures très diverses qui peuvent se transmettre et exister.
Le festival propose au public local, sénégalais ou expatrié, des films auxquels ils n'ont pas accès habituellement. Sheila était présente lors de la première.
Ce qui me plaît surtout, c'est simplement découvrir les films d'ailleurs, que ce soit français ou anglais. C'est pas vraiment le français qui m'intéresse, mais c'est plutôt la découverte des films.
Vous allez venir plusieurs fois dans la semaine?
J'espère. Je sais que je viens déjà samedi parce qu'il y a des films belges. Donc comme je suis belge, je vais venir les voir. Et il y a probablement plusieurs films africains que j'aimerais bien venir regarder parce que vivre en Afrique, c'est important de les connaître.
Les films africains représentent la moitié de la sélection, 13 films et 22 nominations au total. Marianne Dembali, actrice en compétition.
La francophonie, c'est une belle chose, une bonne opportunité pour le cinéma aussi sénégalais et le cinéma africain aussi. Au Sénégal, il y a plus du tout de salles de cinéma. On en compte pratiquement peut-être 5 ou 6 maximum. Et ça ne donne pas l'envie de faire vraiment des films, parce que si tu les fais et qu'on ne les voit pas, ce n'est pas intéressant. Et puis tu le fais dans le pays où tu vis et on ne te connaît même pas. Il y a beaucoup de cinéastes sénégalais qui ne sont pas connus ou bien qui sont morts et là après on les connaît.
Les projections à l'Institut français sont désormais terminées. Reste le vote pour décerner les 10 trophées.
Reportage de Coralie Pierret, le palmarès des trophées du cinéma francophone sera dévoilé le 31 octobre. Que se passe-t-il quand un cinéaste rencontre un photographe ? Eh bien, ça donne ce film, Le sel de la terre de Wim Wenders sur le grand photographe brésilien Sebastião Salgado. C'est vraiment votre film de la semaine, Elisabeth Le Carré.
Oui, en fait, c'est un film qui part comme toujours d'une rencontre il y a 25 ans dans une galerie. Wim Wenders voit des photos de Salgado, en achète une, puis deux. Sur ces entrefaites, il rencontre Salgado et une amitié va naître entre ces deux hommes.
A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows.
Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi, en quelques fractions de seconde, l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon.
Il y a 25 ans, dans une galerie, Wim Wenders voit des photos de Salgado. Il en achète une, puis deux. Sur ces entrefaites, il va rencontrer Salgado. Une amitié va naître entre ces deux hommes. Et puis, rapidement, un film, Le sel de la terre. Et la beauté de ce film, c'est que Wenders, plutôt que de montrer des photos, a demandé à Salgado de les lui raconter. Donc, en fait, nous apprenons comment il a passé des mois avec des chercheurs d'or de Serra Pelata au Brésil. L'une de ses premières séries, celle dont il parle dans l'extrait du film. Une série très impressionnante parce qu'on y voit ses milliers d'hommes sur un flanc de montagne, dans la boue, qui sont rendus complètement fous par la fièvre de l'or. D'ailleurs, ça pourrait s'appeler Greed, la cupidité, hein, pour reprendre le titre d'un film de von Stroheim, cinéaste cher au cœur de Wim Wenders. Et Salgado raconte aussi comment il a vécu, là aussi, pendant des mois, aux côtés d'une tribu d'Indiens de la forêt amazonienne. Évidemment, c'est cette attention hein, aux gens qu'il filme. Le contraire, Salgado, c'est le contraire d'un chasseur d'images. C'est ça qui a plu à Wim Wenders.
C'est un mec qui connaît un peu le contexte dans lequel il photographie, le contexte social, le contexte économique, politique. Il le sait. Il a ce savoir et ça a beaucoup à faire avec sa photographie. Je crois qu'il comprends pourquoi les gens qui la photographient en migration, pourquoi ils ont dû quitter. C'est pas seulement quelqu'un qui est intéressé dans la misère, mais c'est quelqu'un aussi intéressé à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, à savoir où sont les raisons pour une famine. Il a une énorme sympathie, une empathie avec ces gens-là, et c'est vrai, c'est un grand humaniste, mais en plus, il connaît le contexte. Beaucoup de photographes connaissent pas le contexte, ils s'en fichent du contexte. Lui, il fait des longues recherches, puis il voyage quelque part et il reste là. C'est pas quelqu'un qui fait des photos en passant, il reste des semaines et des mois. D'autres photographes, ils viennent, ils prennent l'avion le lendemain parce qu'après avoir pris la photo, Sébastien, il reste. Il reste, il fait les photos quelques semaines plus tard, une fois qu'il connaît les gens et une fois qu'il s'est installé, une fois qu'il a compris le contexte. C'est ça ce qui m'a attiré depuis le début. Moi, je trouve qu'on peut dire que c'est ça, une position plutôt de dignité. Et c'est une position de vous l'avez dit, vous l'avez appelé humaniste, oui. C'est quelqu'un qui aime les gens. C'est quelqu'un qui aime profondément cette humanité. Et c'est pour ça qu'on a appelé le film Le ciel de la terre. Parce que c'est une dame biblique. C'est nous. C'est l'humanité qui est appelée le ciel de la terre. Et il a dédié toute sa vie à montrer l'image de l'humanité de nous, du ciel de la terre.
Wim Wenders, je vous écoute parler de Sébastien Salgado et j'ai le sentiment que vous en parlez comme d'un frère. Effectivement, on peut se poser la question, parce que la première chose qu'on entend dans votre film, c'est votre voix qui donne la définition étymologique de photographe. Vous dites que c'est quelqu'un qui écrit avec la lumière et ce serait aussi une très bonne définition du cinéaste que vous êtes.
Peut-être. Et si c'est mon frère, c'est un frère aîné. Et si c'est un frère, on a quand même choisi une autre route, peut-être avec les mêmes racines.
Qui sont ces racines ?
Moi, je suis quand même plutôt un storyteller. Comment ça se dit en français ?
Un raconteur d'histoire. Un narrateur.
Un narrateur. Et moi, au début, tout ce que je voulais être, c'était peintre. Lui, il était au début un économiste et puis il est devenu photographe. On s'est approché peut-être de la même chose des deux coins très, 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 très différents. Moi, venu de la peinture, lui, venu de l'économie. Mais on est arrivé au même endroit où on est confronté avec l'humanité, avec aussi les soucis de ce planète en ce moment. Mais on est venu de deux côtés très différents.
Wim Wenders, c'est quoi la différence entre un bon, voire un très bon photographe et un photographe de génie ?
Je crois que c'est surtout la dédication. Et c'est surtout le sens de la vérité et le sens d'obligation.
Un grand photographe, c'est quelqu'un qui capte la vérité d'une âme, la vérité d'une personne en quelques secondes.
Justement, quelquefois, c'est pas en quelques secondes. Quelquefois, certainement, c'est en quelques secondes. Et quelquefois, il faut passer du temps. Quelquefois, il faut connaître quelqu'un avant qu'on puisse faire son image.
Wim Wenders, ce projet, il est à trois pôles, si je puis dire. Il y a vous, il y a Sébastien Salgado que vous filmez, et puis il y a Giuliano, le fils de Sébastien Salgado.
On était déjà en train de discuter, Sébastien et moi, que je l'accompagne un peu, que j'arrive à créer un contexte autour de ses photos sur Genesis. Et c'est là que j'ai compris.
Genesis qui est ?
Genesis qui est son dernier grand œuvre à laquelle il a dédié maintenant 10 ans. Et il a photographié le monde entier, il a photographié tous les coins du monde qui sont encore justement comme au début du monde. Et c'est là que j'ai compris que son fils Giuliano, il avait déjà accompagné son père pendant plusieurs voyages. Et quand Sébastien m'a demandé, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un peu un travail qui était fait. Et j'ai rencontré Giuliano et je leur ai proposé, père et fils, qu'on ne devrait pas commencer à zéro, mais qu'on devrait, nous trois, continuer à trois. et que Giuliano aurait certainement accès à son père d'une autre manière. Et lui aussi, certainement, je pourrais m'approcher de ce mystère qui est Sébastien Selgado d'une autre manière que son fils. Pour le fils, il y a des portes qui étaient fermées. Et pour l'étranger que j'étais, moi, il y avait aussi des portes qui étaient fermées. Ensemble, je crois, avec Giuliano et moi, on a pu peindre l'image de cet homme d'une manière assez complète.
Et dans Le sel de la terre, il y a des scènes incroyables où Wenders part filmer Salgado sur la banquise. Alors d'abord, il passe des heures allongé sur le sol gelé pour filmer une famille de morses. Le morse qui, entre parenthèses, est avec le chameau, l'un des animaux les plus photogéniques du monde.
Il a donc de très belles dents.
Voilà, mais c'est une scène très très comique, une façon très spéciale de se déplacer. Et puis surtout, à un moment, arrive un ours blanc. Et ça, c'est une sacrée chance, pouvoir photographier un ours blanc.
C'est dangereux aussi.
Mais justement, comment le photographier, cet ours? Et là, Salgado nous fait un coup de photographie absolument époustouflant, sans oublier toute la fin du film qui se déroule au Brésil, dans le domaine de son enfance, où il est revenu, il a posé ses valises après une vie de baroudeur, et donc il a créé une association pour replanter la forêt.
Le sel de la terre, le nouveau film de Wim Wenders. Pour les autres sorties, Elisabeth, c'est plutôt maigre.
Oui, c'est plutôt maigre. C'est un peu comme dans les films de Miyazaki, quand tous les petits animaux de la forêt se partent en courant devant l'arrivée du monstre. Et ce monstre, évidemment, c'est Samba, nouveau film d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache, 3 ans après Intouchable et son colossal succès, 51 millions de spectateurs dans le monde quand même. Donc la Dream Team de la comédie française revient avec l'histoire d'un Sénégalais sans papier, joué par l'immense Omar Sy. C'est l'histoire de Samba, pris dans une spirale infernale. Il n'a pas de papier, donc impossible de trouver du travail. Ou bien, s'il se trouve du travail, il se fait exploiter par des gens qui le paient au lance-pierre, voire pas du tout. Et donc le sujet principal de ce film, Sébastien, c'est la lutte pour la survie, la lutte pour le travail, mais c'est aussi la peur, c'est-à-dire la peur d'un homme qui sait que à n'importe quel moment, on peut le renvoyer chez lui au Sénégal.
Alors c'est la lutte pour la survie, c'est la peur, mais quand même avec tout ça, vous maintenez que c'est une comédie?
Oui, parce que comme Intouchable arrivait à faire rire d'un homme tétraplégique, hein, on se souvient bien, pas de bras, pas de chocolat, et les salles hurlaient de rire, et bien là, Samba arrive à nous faire rire à partir d'un sujet dramatique, parce qu'en fait, Samba va faire 2 rencontres, l'une avec Alice, alias Charlotte Gainsbourg, qui est une cadre supérieure en burn-out, qui tente justement de se ressourcer dans une association où elle aide les sans-abri. C'est un personnage assez comique, parce que évidemment pas du tout adapté au travail qu'on lui demande. Et puis il y a aussi Wilson, alias Tahar Rahim, qui est un autre gars sans papier, mais qui lui est beaucoup plus débrouillard que Samba. Et là, c'est la scène la plus comique du film que je vous propose d'écouter. Tahar Rahim, laveur de vitres sur un gratte-ciel, fait un striptease.
T'es chaud lapin, toi?
Non, arrête. Non, c'est pas ce lapin que c'est. Non, c'est pas lapin. Non.
Hey, tu connais la pub Coca-Cola?
Quoi? Take it easy, my brother. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, s'il te plaît. C'est fini, Coca, là, terminé. Retournez travailler, c'est fini.
Samba, viens. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça, je peux pas, c'est pas possible.
Balance les pompes.
Qu'est-ce que t'as fait là? Mais tu m'as dit balance! Pas sur le toit, viens!
Et le film, on l'entend, est vraiment porté par la performance d'Omar Sy. C'est un rôle très différent d'Intouchable, où il jouait un Titi des banlieues avec la tchatche et tutti quanti. Ici, c'est quand même un type qui vit du soir au matin dans la peur d'être expulsé. Alors, on peut critiquer le scénario de Samba, qui n'est pas parfait. Et entre autres, le personnage de Charlotte Gainsbourg a beaucoup de mal à exister. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une drôle de gageure d'arriver à nous faire rire avec la descente aux enfers d'un sans-papier.
Eh bien, on va parler d'une autre gageure dans quelques instants, filmer la violence entre 2 communautés sans complaisance, le combat de la modernité contre les traditions les plus rétrogrades, sans être donneur de leçons. Ce pari, c'est celui de Geronimo, de Tony Gatliff. Tony Gatliff avec lequel je vous retrouve dans 3 minutes, juste après les infos sur RFI. Ce sera la suite de Tous les cinémas.
Tous les cinémas du monde. Sébastien Gédor.
tous les cinémas du monde sur RFI, Radio France Internationale. Je vous retrouve en compagnie d'un réalisateur libre, libre comme ses films. Un réalisateur qui filme les tourments du peuple gitan sur des musiques endiablées, musiques qu'il écrit souvent lui-même. De Lachodrome à Indignados, en passant par Gadjodilo et Exil, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, il nous parle de notre monde au-delà de tous les communautarismes. Bonjour Tony Gatliff.
Bonjour à vous.
Votre nouveau film s'appelle Geronimo, il était en sélection officielle hors compétition à Cannes. Geronimo, c'est une éducatrice, jouée par Céline Salette, qui va tenter d'empêcher un bain de sang entre deux communautés, l'une d'origine turque, l'autre d'origine espagnole. Ça se passe dans le sud de la France. Alors pourquoi ce titre de Geronimo, qui est le nom d'un chef indien à l'origine?
Mais Geronimo, parce que au départ, quand j'ai commencé à écrire le scénario, le rôle était pour un homme. Et donc, je l'écrivais comme si c'était pour moi. Enfin, j'écrivais en me regardant, en piochant dans ma vie un peu des souvenirs comme celle du film. Donc, je vais donner le nom de Geronimo parce que dès qu'on le nomme Geronimo, tout de suite, il y a la légende qui arrive avec. Et Geronimo, c'est un chef apache formidable qui s'est battu contre les Mexicains, contre les Américains. Ils ont exterminé sa famille deux fois parce qu'il était deux fois marié, évidemment. Ils ont exterminé son peuple. Il a toujours été debout, toujours été présent, toujours été en face, jamais n'abandonné jusqu'au moment où ils l'ont complètement anéanti. Donc quand on prononce Geronimo, finalement, on le voit tout de suite, la légende.
Geronimo, votre film, voici la bande-annonce.
Il y a Geronimo, il y a l'éducatrice.
Il est parti le jour de la cérémonie de son mariage et elle s'est cassée avec ton frère. Il faut les protéger.
Si tu sais quelque chose sur moi, sur vos mieux pour toi, tu me dises maintenant.
S'il touche à mon frère, on les massacre tous.
Tu t'es assez occupé des mères des autres.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches?
Qu'est-ce que tu crois que je cherche? Qu'est-ce que je fais ici depuis des années? J'essaye de croire au miracle.
On cherche ma sœur.
Tu l'aimes comment, Neil? Non, parce qu'on rigole pas là. Tu vois la merde dans laquelle on est.
Geronimo, on l'a dit, Tony Gatliff, c'est cette éducatrice qui tente d'éviter que ça ne dégénère encore plus dans ce quartier de Saint-Pierre. Alors l'attention, on l'a compris dans la bande-annonce, vient du fait que Nil Terzi, donc, est une adolescente d'origine turque, a fui un mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina, qui est gitan d'origine espagnole. Il y a toujours un peu de vous dans vos films, Tony Gatliff, mais peut-être dans celui-là encore plus que dans les autres, non?
Dans celui-là, c'est encore plus parce que, évidemment, je suis de eux tous qui sont là, à part peut-être Rachid, leur personnage secondaire qui a 18 ans. Et donc, je suis le seul à avoir été dans les foyers, à fréquenter les éducateurs. Et donc, c'est grâce à ces éducateurs que je pense que je suis là aujourd'hui. Parce que quelque part, ils m'ont sauvé la vie. Donc, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire d'un éducateur aujourd'hui par rapport à notre époque, de ce qui se passe à notre époque, par rapport à tous ces films policiers, toutes ces histoires policières. Un éducateur, c'est quelque chose de formidable. Parce que c'est humain, c'est quelqu'un qui parle.
Mais pour revenir au point de départ du film, ce mariage arrangé, vous avez connu ça aussi? Vous avez quitté l'Algérie pour fuir un mariage arrangé?
J'ai pas fui l'Algérie, mais j'ai fui le mariage à Angers. Mon frère aussi a fui le mariage, il avait 14 ans, moi je devais avoir dans les 10 ans, et c'est moi qui lui ai amené à manger, ma mère l'avait caché dans la forêt, et donc voilà, donc et c'est j'ai appris ça par mon frère comme une panique. C'est quelque chose d'horrible de se marier quand on a 14 ans, et qu'on vous force à vous marier avec n'importe qui, avec quelqu'un qu'on connaît pas, une cousine ou un quelqu'un lointain, et donc pour des gosses c'est quand même très très effrayant. Et pour moi, après, une fois que j'ai vu mon frère paniquer quand on me l'a appris, moi, dans le mariage de mon frère, où mon grand-père m'a dit le prochain ça va à toi, là j'ai paniqué mais à mort.
Et vous êtes parti.
Et je suis parti, oui.
Donc il y a cette histoire personnelle au départ, ouais, Tony ouais. Gatliff, et puis il y a l'histoire d'un éducateur. Vous avez dit que vous vouliez rendre hommage à travers Geronimo aux éducateurs.
Absolument. À tous ces éducateurs qui passent leur vie dans les fournaises de ces jeunes-là, qui a comme en ce moment, où c'est vraiment dur ce qui se passe avec les jeunes qui sont des jeunes abandonnés, des jeunes délaissés évidemment, qui sont des échecs scolaires, abandonnés par les familles, les familles s'en occupent pas, plutôt abandonnés par les sociétés. Évidemment, c'est pas tous les jeunes, hein, mais certains. Et donc, la situation est très très grave.
Alors, on va parler de la jeunesse un peu plus tard dans cette émission. Cette éducatrice, donc elle s'appelle Géronimo, et pour l'incarner, vous aviez tout de suite pensé à Céline Salette. Céline Salette, c'était l'interprète remarquée de l'Apollonide de Bertrand Bonello, qui se passait dans une maison close, donc pas vraiment le même univers. Et puis Céline Salette, c'était aussi le personnage central de la série Les Revenants sur Canal+. Comment est-ce que Céline Salette s'est retrouvée à s'interposer entre ces deux communautés dans votre film Géronimo ?
Au départ, comme je vous ai dit, le personnage c'était un homme dans le scénario. Et puis ça m'a pas plu. J'ai eu tout le financement pour faire le film et j'ai arrêté le film pendant un long moment. Vraiment un long moment parce que je n'avais pas de détonateur, j'avais pas d'inspiration. C'est comme ça. Bon. Et donc j'ai laissé pendant de longs mois sans toucher ce scénario. Puis il y a un moment où j'ai pensé que peut-être il me fallait une présence féminine, qu'il me manquait une présence féminine. Et donc j'ai commencé à faire un casting avec des jeunes femmes, des jeunes actrices, et j'ai reçu Céline que je connaissais pas beaucoup. Et vraiment, elle était face à moi à un mètre, parce que j'ai une petite table comme ça dans mon bureau. Et je la regardais. Puis elle me parlait de son métier d'acteur et d'actrice. Et puis, plus je la regardais, plus je me disais, ça y est, j'ai le film. Je sais pas que j'ai mon personnage, c'est que j'ai le film. J'ai trouvé la raison de mon film. Et en fin de compte, c'était ça, c'était que l'homme, c'était pas bien, c'est parce que j'avais pas envie que ça soit un homme, l'éducateur. Je voulais que ça soit une femme. Et en rencontrant Céline, j'avais tout de suite la solution. C'est que c'est une éducatrice et c'est là que c'est plus fort.
Et on a l'impression que Céline Salette, dans votre film, Géronimo, elle veut arrêter le déchaînement de violence rien qu'avec son regard bleu. On a l'impression qu'elle va faire barrage de son corps. Mais elle le fait, hein, littéralement, barrage avec son regard aussi.
Tout à fait. Mais c'est très très fort quand on la regarde, et c'est très fort comment je l'ai rencontrée. J'étais sûr que je pouvais la mettre dans la fournaise de tous ces jeunes et qu'elle allait sortir sans problème et qu'elle allait régler en tout cas certaines histoires. Parce que comme elle dit elle-même, son travail, c'est en fin de compte, c'est comme croire au miracle. Parce que comment on peut aider tous ces jeunes qui sont perdus? On le sait bien aujourd'hui. Ils sont complètement désespérés, ces jeunes qui ont ni travail, ni d'avenir, qui ont entre 13 et 18 ans, ou 19 ans, 20 ans. Et donc, elle est là, puis elle essaye quand même d'être, de les aider, de éviter les explosions, éviter que ça part en live, comme on dit. Et puis, elle sait très bien que si elle réussit un jour, c'est comme un miracle. Parce que c'est quand même un être humain, quoi. C'est quand même des gosses.
Géronimo, donc Céline Salette, essaie de retrouver la trace de Neil qui est en fuite avant qu'il ne soit trop tard.
Je suis là pour t'aider! Attends! Reste là, reste! Lâche-moi! C'est qui est mal qui m'envoie! C'est lui qui m'a dit où tu étais.
Attends.
Laisse-moi. Tu dois venir avec moi.
Laisse-moi, si tu me ramènes, ils vont me tuer.
Je t'emmène dans un endroit où tu seras en sécurité.
Attends, maman.
Je suis là pour t'aider, d'accord? Calme-toi, n'aie pas peur.
Attends.
C'est très mal, tu m'envoies.
J'attends Lucky. J'adore Lucky, je partirai pas sans Lucky.
Il est où, Lucky? Il est pas avec toi?
Autour de Céline Salette, Tony Gatliff, comment avez-vous constitué votre troupe d'acteurs pour Géronimo? Beaucoup sont non professionnels ou n'avaient pas une très grande carrière au départ, tous ceux qui incarnent Fazil, Lucky, Neil. Alors il y a Rachid Yous, David Murgia et Naïla Arzoun.
Oui. Ils étaient à peu près une vingtaine dans la bande, dans la petite bande là, et donc il y a très peu qui sont des professionnels, à part Céline Salette et David Burgia. Tous les autres étaient pas des acteurs, c'est des personnages que j'ai trouvés en casting, et j'ai aimé les parler avec eux, et je les ai choisis que avec la parole. J'ai jamais fait de casting avec eux. Et donc tous ceux qui correspondaient à leur rôle, à travers ce qu'ils avaient comme bagage intérieur, je les prenais. Comme par exemple Rachid, qui joue le rôle principal, celui qui il veut faire du mal à sa sœur, celui qui veut tuer sa sœur. Rachid, c'est ce qu'il me racontait était incroyable. incroyablement fort, fort. Et donc j'avais peur que, en le prenant d'ailleurs, que j'allais pas arriver à l'arrêter si jamais ça dérape. C'est ça le rôle du réalisateur aussi. C'est, on prend des gens qui sont pas des amateurs, mais des inconnus qui n'ont jamais travaillé, mais on les fait travailler avec ce qu'ils possèdent comme histoire. Mais il y a un moment où on touche à quelque chose de très très dur, et à ce moment-là, il faut savoir s'arrêter.
Alors ils apportent une certaine fraîcheur, mais vous nous dites qu'ils peuvent devenir incontrôlables, c'est ça?
Absolument.
En fait.
Ouais. Et d'ailleurs, dans la première scène, celle de ce que j'appelle la ruelle, où il y a un affrontement musical presque entre les deux bandes, Rachid et au départ, c'était pas bien, ça marchait pas bien du tout. C'est presque le début du tournage, et donc je lui ai dit de ne pas jouer, parce que quand on joue, ça se voit, et puis surtout, ça sert à rien de jouer, tu sais pas jouer, comme tu sors pas du conservatoire.
Alors donc, vous lui avez dit sois toi-même.
Je lui ai dit sois toi-même, et donc je lui ai dit la solution, c'est que tu tailles derrière les voitures, parce qu'on s'éclairait avec des phares de voiture dans la nuit. Je lui ai dit tu t'assois quelque part où tu veux, et quand t'es prêt, je le saurai. On était tous là, une soixantaine, la caméra sur épaule, le son tout prêt comme ça, des acteurs aussi. Et puis au bout de 20 minutes, Céline Salette a commencé à se scandaliser un tout petit peu, à dire mais c'est pas vrai, comme ça.
Il est pas prêt.
Qu'est-ce que c'est, ouais. C'est quoi ce truc? Et puis après les acteurs aussi, les autres aussi, ont commencé, ses collègues ont commencé à dire mais oh là là, c'est dur quand même. Et je leur ai dit vous aussi allez vous asseoir là-bas, vous concentrez, et quand Rachid sort, quand il sort et qu'il va être fantastique lui-même, si jamais vous lui ratez sa scène, ça va être horrible. Donc concentrez-vous. Et donc tous les 12 sont concentrés, les mains sur la tête, ils sont restés comme ça. Mais ça a duré 40 minutes. Au bout de 40 minutes, j'ai commencé à entendre Rachid, je commençais à le sentir qui bougeait derrière les voitures. J'ai dit moteur, vraiment sans le voir.
Et il était prêt.
Et il était superbe, il était absolument superbe. Et c'est là où je vous ai dit que comment l'arrêter après, comment arrêter. Parce qu'évidemment, j'ai cherché quelque chose de très fort en lui disant de faire ça. Mais après, donc, il était plus qu'un acteur, il était lui-même, il était comme le personnage. Et donc, très, très fort, il pleurait presque, ou il était intense, comme avec des larmes partout, et ses copains, donc, ceux qui étaient assis sur les rochers en attendant, ils ont commencé à pleurer, eux, ils ont commencé vraiment à rentrer dans le coup, et eux, ils ont commencé à pleurer. Et donc, et là, je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose, parce que il faut que je sente que ça va, Rachid, t'es sûr, ça va. Il m'a pas répondu, et j'étais prêt à couper, parce que je me suis dit on sait jamais. Et j'ai répété, je me suis avancé, j'ai répété, et il m'a dit ça va, ne t'inquiète pas, ça va, et j'étais sûr qu'à ce moment-là je pouvais y aller jusqu'au bout.
Alors Geronimo démarre vraiment au quart de tour avec une course folle, hein, c'est celle de Neil, donc qui s'enfuit de son mariage forcé, qui part avec son amoureux sur une moto pétaradante, et on reste sur ce film tout au long de Geronimo, Tony Gatliff, avec une musique qui porte l'action. Est-ce que c'est vrai que cette musique a préexisté au film?
Cette musique-là, on l'avait écrite, Delphine Montoulet et Valentin Damani l'ont écrit un an avant le début du film, avant le tournage. Et je leur avais dit, je vais commencer par cette scène-là et ça va être comme une urgence, comme quelque chose, comme une ambulance survoltée. Et le début du film, ça va être comme ça. Parce que la jeune fille fuit sa famille et elle fuit le danger, la mort. Donc, et je leur ai dit, elle part en moto avec son amoureux. Et là, je voudrais une musique qui fait penser à l'amour. Quelque chose qui est comme du niveau du la passion, quelque chose qui où le partenaire amoureux a envie de manger l'autre, et disait c'est, et donc il faut vraiment que la musique soit comme ça.
Alors il y a des musiques comme ça qui sont comme des ambulances, comme des cris, et puis il y a des musiques qui sont comme des prières. Sainte Marie, extrait de la bande originale du film Geronimo de Tony Gatliff, qui est avec nous dans tous les cinémas du monde.
Gracias Santa Maria, llena eres de gracia. Protege quien quieras, a mí no me importa. Después de todo, me las arreglaré. Y trate siempre de seguir orgulloso. Gracias, Santa María, madre de quien desee. Y por Santa Sara, la Virgen Negra, hay muchos que gritan, hay tantos que lloran en esta tierra. Por Santa Santa Maria. Gracias si quieres orar por un infiel, pero yo tengo conmigo un ángel y mucho más lindo que los del cielo, y mucho más lindo que los del cielo.
Sainte Marie, protège qui tu veux, une musique comme une prière extraite de la bande originale du film Geronimo de Tony Gatliffe qui est avec nous dans tous les cinémas du monde. Ce disque est sorti chez Frémo et Associés. Tony Gatliffe, vous avez déjà reçu 2 Césars pour la musique de 2 de vos films, alors on espère que ça va continuer. En tout cas, dans Geronimo, la musique, elle est comme une allégorie de la violence, parce qu'on a d'abord des battles, ces face-à-face musicaux, danser aussi entre communautés turques et espagnoles, avant que ne sortent les fusils ou les couteaux.
Oui. Parce que la musique remplace la violence dans ce film. Parce qu'à partir du moment où je raconte une histoire comme celle-là, comme cette jeune fille qui s'en va, qui s'enfuit de son mariage arrangé, donc forcément, elle amène le danger. Le danger va arriver. C'est un peu comme Roméo et Juliette. C'est un peu comme dans le film West Side Story ou la pièce de Garcia Lorca, Baudin Sangré. C'est-à-dire qu'il y a des morts. Dans Roméo et Juliette, il y a 4 morts. Et là, je voulais pas en arriver là, moi, avec ce film, parce que je voulais le faire autrement, parce que je déteste la violence. Je suis un non-violent. Et la violence est photogénique. J'aime pas ça. Et donc, on a fait toute la musique qu'on a fait, c'est pour justement pour ne pas montrer cette violence physique, et elle est franchement beaucoup plus puissante que des couteaux, que des barres de fer.
Alors c'est un film sur la violence, mais qui n'est pas violent, ce n'est pas non plus un film sombre, même si le sujet est grave, on est vraiment baigné dans cette lumière du sud de la France. Vous avez tourné dans de grands hangars désaffectés, qui sont à proximité de voies de chemin de fer, hein, c'est ce qu'on entendait dans l'extrait de tout à l'heure, ces trains qui passent. Qu'est-ce que ça a changé de filmer dans ces grands espaces qui sont ouverts à tous les vents, désaffectés comme ça?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est le côté citadin que j'ai aimé et la liberté. Il n'y a rien qui freine la caméra. Il n'y a rien qui peut faire obstacle à la caméra. La caméra est libre. Et je suis très très attaché. Je suis un cinéaste à la liberté, donc je suis un cinéaste libre. Et j'adore quand je peux aller d'un endroit à l'autre et suivre un acteur sans lui, évidemment, en lui donnant des indications, mais sans que l'acteur puisse avoir des freins. Parce que dans les films, les acteurs ont des freins pour, par exemple, pour s'arrêter à côté de la chaise, à côté d'un scotch pour être avoir le point et tout ça. Et là, il n'y avait pas. C'était la caméra qui le suivait tout le temps. Et donc, ça donnait une liberté incroyable dans le film.
Geronimo, c'est un film sur la jeunesse, mais c'est pas vraiment la jeunesse que vous aviez filmée dans Indignados il y a 2 ans, qui était librement adapté du livre de Stéphane Hessel, hein, Indignez-vous. Vous filmiez des jeunes vraiment en révolte. Là, ce qui est frappant dans Geronimo, c'est qu'on a l'impression que ces jeunes, ils ne croient plus à rien.
Non, là, c'est une jeunesse déprimée.
Désespérée, même.
On déprime, c'est une jeunesse qui est lâchée. Ça m'a été inspiré quand j'ai travaillé avec Stéphane Hessel, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la crise économique, et cette crise économique, elle a frappé tous ces jeunes-là que j'ai filmés. Et donc, aujourd'hui, on en arrive là. Et donc, c'est ces jeunes qui sont abandonnés, qui n'en croient à rien. Ils ont des échecs scolaires, on dit du mal d'eux partout, ils n'ont pas d'espoir du lendemain. Donc, voilà. C'est comme ce personnage, le petit personnage Rachid, là, le Fazil, dans le film, qui, pour venger l'honneur de sa famille, va chercher le crime d'honneur derrière les fagots que son grand-père l'a abandonné quand ils sont arrivés du pays, et lui, il le brandit comme ça en disant « Moi, je vais venger l'honneur de ma famille. » Et ses oncles, ses grands-oncles, qui ont tous 80 ans, 70 ans, ses frères, ses grands-frères, lui disent « Non, il faut pas faire ça parce que nous sommes bien ici. Ça, c'est des histoires anciennes, on va régler ça autrement. » Et le jeune dit « On règle rien du tout. » À partir du moment où il a 3 ans et qu'il parle comme ça à son oncle qui a 80 ans en disant on règle rien du tout et que eux, lui et ses frères derrière qui sont tous des petits jeunes qui sont prêts à mourir pour leur honneur, donc ça veut dire que nous sommes vraiment dans ce qui nous concerne aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire qu'il est urgent de régler le problème.
Alors ce qui est tragique dans Geronimo, c'est le désœuvrement de ces jeunes victimes de la crise, désœuvrement contre lequel veut lutter justement Geronimo, l'éducatrice de votre film Tony Gatliff.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien d'autre à foutre?
Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Sérieux?
Trouve-toi une occupation. Hein? Je sais pas moi, fais de la musique. Ouais. Fais des percussions avec des boîtes de conserve.
Des conserves? C'est pour les clodos, ça. Vas-y, va te faire foutre avec ça.
Ne parle pas comme ça avec ça.
Vas-y, va te faire foutre.
Lâche-le, Yogos.
Vas-y, cache ton frère.
Attends, avec ça. Tu viens de battre?
Calme-toi, calme-toi.
Tu te battre,
calme-toi.
C'est bon.
Moi, tu es dur pour honnête.
Bon, demain, je prends le bus de la mairie. Je vous amène à la plage.
La plage?
Ouais,
on s'en bat les couilles de la plage. On va aller à Barcelone. Ah,
ces jeunes désœuvrés dans Geronimo, vous y avez fait allusion, Tony Gatliff, ils se raccrochent à des traditions auxquelles plus personne ne croit. Et ce sont les vieux qui sont obligés de les raisonner. Ils qualifient les jeunes de posséder ces vieux qui veulent imposer les mariages forcés et les crimes d'honneur.
Voilà, c'est ça.
C'est incroyable ce renversement de situation finalement. Que les vieux soient plus modernes que les jeunes qui sont tentés par un repli sur leurs traditions.
Voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, ce que j'adore dans le cinéma, c'est que le cinéma nous raconte une histoire d'amour, ces jeunes et tout ça. Et il y a une autre histoire, il y a certaines personnes qui peuvent la dénicher. C'est l'histoire de notre époque. C'est tous ces jeunes qui partent en Syrie et qui s'en vont, ils ont 14 ans, 15 ans, qui vont à Marseille et tout d'un coup on les retrouve en Syrie ou ailleurs parce que ils se sont fait manipuler par des gens forts, des gens qui ont le pouvoir de la parole et ils se retrouvent parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont en déprime, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils veulent s'accrocher à des choses. Et donc ces gens qui leur disent venez vous accrocher, nous on vous donne des choses qui sont valables pour s'accrocher, et ils les amènent en Syrie ou ailleurs ou un peu partout là où on commence ce moment. Et donc c'est quand même une histoire très très dure, c'est notre époque.
Vous, à 66 ans, Tony Gatliff, vous imaginiez un jour être confronté à ce repli identitaire, à ce retour vers le passé?
Jamais, mais jamais. C'est pour ça que je suis sidéré. C'est pour ça que j'ai fait ce film. Parce que, évidemment, avant, je faisais des films sur l'identité, sur l'amour, sur la musique et tout. Et là, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à ce sujet. Jamais je pouvais imaginer de voir des gamins qui sont même pas musulmans, qui sont même pas radicales de quoi que ce soit, et qui se retrouvent, je sais pas par quel mystère, par quelle magie, baratinés par quelqu'un, et qui se retrouvent au bout du monde, vers des gens qui sont pas des gens qui sont en train de faire la guerre, ou qui sont en train de régler l'humanité, qui sont véritablement des bandits de grand chemin.
Aujourd'hui, on a l'impression dans votre film, Geronimo, que le dialogue est complètement impossible entre la famille du mari, donc qui estime son honneur bafoué, et le reste de la société, qui est incarnée finalement par cette éducatrice, Céline Salette. Et c'est là que ça va devenir très dangereux pour elle, parce qu'à un moment, elle ne peut plus s'interposer avec ses mots.
Non, parce qu'elle est dans la fournaise. Il faut absolument qu'elle sauve cette jeune fille. Parce que cette jeune fille, elle voulait pas se marier. Elle a 16 ans. Elle va tout faire pour essayer de la sauver et sauver les autres. Parce qu'à partir du moment où il y a un blessé où ça explose, après ça explose de partout. Mmh. Donc, elle connaît ça et elle veut absolument arrêter la folie, quoi. Et donc, cette éducatrice, pour moi, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un de généreux, de courageux, de cet année exemple pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce genre d'éducatrice. Il y en a un peu, mais pas beaucoup.
Alors, vous faites beaucoup d'avant-premières, vous sillonnez la France pour présenter ce film, Geronimo, Tony Gatliff. Quelles sont les réactions du public sur ce film qui parle de notre monde d'aujourd'hui, même si ça parle de l'opposition d'abord entre des communautés, l'une d'origine turque, l'autre d'origine espagnole?
Mais je suis d'abord très étonné que vraiment toutes les salles sont pleines de gens, vraiment pleines, et que je n'aime pas qu'on refuse les spectateurs, donc je dis toujours au directeur de salle de trouver des solutions, et donc on s'entasse, bref. Et donc tous les avant-premières étaient pleines de gens et de jeunes, vraiment de jeunes, et des fois des vieux, des gens âgés, professeurs, éducateurs, évidemment. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand le film se termine, Je sais très bien que personne ne va parler. Parce que le film, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il commence.
La dernière scène, évidemment, est très forte.
Ouais. Survoltée, et après, ça ne s'arrête pas. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une urgence. Cette urgence-là, elle dure 4 jours. Il faut absolument comprendre 4 jours. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de on va pas réfléchir comment on va faire. Il faut faire les choses. Quand le film se termine, je sais très bien que personne ne va parler parce que c'est un débat. Donc je dis au directeur de salle, laisse tomber, personne ne va parler parce qu'ils sont tous en recueillement. En recueillement, je sais pas, ils sont pas assommés, c'est pas ça. Ils sont en recueillement et je prends moi la parole et j'essaye de parler, de dire comment j'ai monté le film. Ils ont des questions, mais c'est des questions super, c'est que des questions, comment faire, est-ce qu'il y a une solution. Et ils parlent beaucoup de cette éducatrice parce que elle les touche énormément. Puis ils disent, est-ce qu'il y a d'autres éducatrices comme ça un peu partout, on aimerait bien qu'il y en ait partout. Et généralement c'est beaucoup de jeunes.
Merci Tony Gatliffe. Geronimo sur les écrans français depuis ce mercredi avec Céline Salette et puis d'autres acteurs dont on va reciter les noms, Rachid Yousse, David Murgia et Naila Arzoun. La bande originale du film chez Frémaux et Associés. Tous les cinémas du monde, c'est terminé pour cette semaine. Au micro, Sébastien Gédor, à la réalisation Fanny Renard. Et la semaine prochaine, nous serons avec Céline Sciamma pour Bande de filles. C'est un film qui, comme le vôtre finalement, Geronimo, Tony Gatliffe, regarde la société droit dans les yeux. Et on se quitte avec un nouvel extrait de la bande originale de Geronimo. À la semaine prochaine.